M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût ? Mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Charlotte Gainsbourg. Elle est chanteuse, actrice, réalisatrice et aussi bien évidemment descendante d'un des couples les plus mythiques de la culture française, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Alors comment construit-on sa singularité, son propre goût, quand on a été élevé par des personnalités et des référents esthétiques aussi forts ? Comment crée-t-on sa place quand on se trouve moins génial que son père, moins belle que sa mère, et que l'on marche toutefois dans leurs pas en menant de front cinéma et chanson, en s'autorisant peut-être encore et toujours, et en lâchant prise, pourrait répondre Charlotte Gainsbourg, qui compte à son actif 5 beaux albums et une filmographie de plus de 50 films. On y croise Claude Miller, Yvan Attal, Todd Haynes ou bien sûr Lars von Trier. Ce mois-ci, en plus de jouer la psy référente et très lucide du Dr Dayan dans En Thérapie saison 2, vous pourrez la retrouver à l'affiche des Passagers de la Nuit de Michael Hirst, un film nocturne, sensoriel dans le Paris des années 80. Charlotte Gainsbourg joue Elisabeth, une femme qui après s'être séparée de son mari et alors que ses enfants s'apprêtent à quitter le nid, se retrouve à la quarantaine en pleine quête d'autonomie. Allez, direction le 7e arrondissement. Charlotte Gainsbourg nous a donné rendez-vous dans son quartier, un très bel hôtel, à deux pas de la rue de Verneuil, où elle a grandi. Bonjour.
Bonjour. Entrez.
Alors Charlotte Gainsbourg, on n'est pas chez vous, on est dans un hôtel.
Oui.
Pourquoi vous avez voulu qu'on vienne dans un hôtel ?
C'est en face de chez moi. Ils sont très gentils.
C'est un espace qui vous ressemble ici ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout, du tout, non.
Et vous y venez souvent ?
Oui, mais j'adore aller dans des endroits qui ne me ressemblent pas du tout.
On l'a suivie dans une petite pièce, au fond à droite, après le bar. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
J'ai eu un mot qui est venu, mais c'est pas ça. Kleenex. mais Kleenex, ça correspond à plein de trucs, donc pourquoi pas ?
Mais pourquoi Kleenex ?
C'était un jeu que j'avais petite, très petite, hein, où je collais du Kleenex sur des parois en mouillant le Kleenex. Je faisais aussi des boulettes de papier qu'on envoyait dans les stylos à billes, papier mâché aussi. Mon père avait des boîtes de Kleenex, Kleenex for men, qu'on trouve plus. Malheureusement, on trouve que des boîtes de Kleenex affreuses aujourd'hui. Et il fallait acheter que ces boîtes-là. Elles étaient très, effectivement, très très belles. Elles étaient plates, assez larges. Bon, c'était des rectangles, pas du tout comme les petits cubes qu'on a aujourd'hui. Bon, et c'était des très beaux Kleenex. Et puis, je pense que lui aussi, il avait un goût pour, justement, pour le mot. Et ouais. il l'a suffisamment utilisé dans les chansons. Voilà.
Vous êtes née à Londres, mais vous avez grandi à Paris.
Ouais.
Pas très loin de là où on enregistre, d'ailleurs.
Tout près.
Tout près, on est dans le 7e. Si je vous demande la maison ou l'appartement de votre enfance, à quoi il ressemblait ?
Ah, bah c'est la maison de mon père. Mais alors, l'endroit où on était, l'endroit qui correspondait à ma maison, n'existe plus parce qu'on avait une chambre, Kate et moi, qui était mitoyenne à la maison. Donc ça communiquait par la cuisine. Mais quand ma mère a quitté mon père, en fait, les propriétaires de cette chambre ont voulu la récupérer. Mon père voulait la racheter, ils n'ont pas voulu, donc il a muré notre chambre d'enfant, ce qui est assez symbolique, c'était assez affreux. Toute ma vie, j'ai cru que c'est lui qui avait voulu la murer. Ma mère m'a dit récemment, non, il voulait l'acheter et il n'a pas pu. Ma maison d'enfance, c'est notre nurserie en fait. On habitait, Kate et moi, on ne se baladait pas dans la maison, on n'avait pas trop le droit, on était plus collés dans notre chambre. On n'était pas du tout malheureuse pour autant, mais c'était un petit espace quand même. Et il y avait surtout une jeune fille au pair qui vivait avec nous, dans la chambre, derrière un paravent. Donc la pauvre, pour l'intimité, ça devait être affreux, mais c'est comme ça. Et j'ai eu un lit à barreaux jusqu'à ce que mes pieds dépassent du lit, parce que mon père trouvait ça beau. Il voulait pas se séparer de ce lit à barreaux. Et après, bon, il a cédé quand vraiment j'avais les pieds qui dépassaient. Il a acheté des lits superposés.
Pourquoi vous n'aviez pas trop le droit de vous balader dans le reste de la maison? Parce qu'il était attaché à...
Il était très, très maniaque. Il était tellement collectionneur, tellement méticuleux qu'on ne pouvait pas s'amuser dans le salon. On pouvait aller dans la cuisine, ça oui, mais le salon, c'était plein d'objets, c'était là où il y avait son piano. Alors on passait par l'entrée quand même, on passait par le salon, mais c'était juste un lieu de passage. Et ma mère avait sa chambre en haut, une pièce où elle pouvait mettre son bordel. L'espace commun, c'était la cuisine, c'est tout. Et après, ma mère a eu une maison de campagne. Enfin, c'était notre maison de campagne, mais du coup, c'était beaucoup plus joyeux là-dedans parce que on avait tous nos jouets, et c'était voilà.
La rue de Verneuil, quand vous étiez enfant, les murs étaient déjà noirs et tout
oui.
ça
ou,
ouais, tout le temps.
Feutre noir partout, et je pense que dans notre chambre aussi, mais je suis pas sûre à 100%, mais je crois que oui, c'était partout.
Alors, dans ce podcast, on parle de goût et je demande toujours aux invités de me parler de leurs parents on commence par votre père. Si vous le résumiez aujourd'hui, voilà, si vous pensez juste au goût de votre père, vous diriez qu'il aimait quoi?
Le bon goût.
Ah oui?
Ouais. Il y avait un vrai goût pour la grossièreté, mais pas la vulgarité. En fait, il y avait vraiment un lexique et... Enfin, il y avait un mode d'emploi plutôt... très très établi et qu'on suivait à la lettre. Enfin, moi, il m'a fait ma culture en peinture, ça c'est sûr, en littérature, en musique, en film.
Oui, je crois que vous regardiez beaucoup de films avec lui.
Beaucoup, parce que c'est le démarrage des... D'abord, je suis jamais allée au cinéma avec mon père.
Il n'allait jamais au cinéma.
Lui, il n'allait pas. Je pense que les seuls moments où il est allé au cinéma, c'est quand ils allaient à Avoriaz, au festival d'Avoriaz, où ils s'amusaient comme des fous, parce que c'était le festival du film fantastique. Du coup, ils avaient vu tous les grands films d'horreur de l'époque. Mais sinon, donc pas de salle de cinéma avec mon père, mais il avait acheté un écran géant. Pour l'époque, c'était dément. Et on était allongés dans son lit, parce que c'était dans sa chambre à coucher, une très grande chambre. Et le début des cassettes vidéo, des VHS, mais aussi des cassettes bêta. Et on allait au Lido Musique, sur les Champs-Élysées, acheter tous les imports américains, sans sous-titres. Et c'est comme ça qu'il a appris l'anglais, lui.
Ah ouais.
Parce que, ouais, c'est vraiment grâce aux films non sous-titrés.
Et vous regardiez beaucoup de films d'horreur?
Beaucoup de films d'horreur, beaucoup de cinéma italien, plutôt le cinéma, les comédies italiennes de la grande époque, beaucoup de films américains, des westerns, énormément de westerns, et sinon des vieux films français, mais c'était plus Gabin, cette époque-là. Et aussi les Walt Disney, les vieux Walt Disney, beaucoup. Mais c'était vraiment très sacralisé. C'était, voilà, on faisait une séance de cinéma. Par contre, il y avait, avant l'heure, des bonbons. Il m'achetait, en fait, avant que je vienne, c'était les week-ends, il remplissait un bocal énorme de toutes les confiseries possibles. Et il faisait aussi, comme ils avaient des fringales, bambou et lui, la nuit... Mais le soir, on faisait du maïs avec, il avait des recettes de la cuisine de Fès. Il faisait aussi des pois chiches. Voilà, il aimait la cuisine, mais tout était très choisi. Donc, mon père avait un goût pour des choses, c'était très calculé et très réfléchi.
Et il y avait une volonté, vous dites, il a fait ma culture en peinture, en cinéma, en musique aussi, j'imagine quand même.
Mais bien sûr, musique,
voilà.
Ouais.
Donc, il avait une volonté de vous transmettre quelque chose.
Oui, tout ce qu'il m'a donné, enfin, comme leçon, ça n'avait pas l'air d'une leçon. Justement, il ne m'a jamais appris le piano. Oui. Il n'a pas voulu m'enseigner le piano parce que son père lui avait appris de manière trop brutale et il en avait beaucoup souffert. Donc il n'a pas voulu que je joue du piano avant que moi j'en ai envie. À l'âge de 9 ans, quand ils se sont séparés, j'ai eu un piano.
Chez votre mère, vous avez eu un piano.
Chez ma mère.
Oui, voilà. Oui.
Et c'est ma mère qui m'a donné cette possibilité. Après, il en était très fier, mais c'était toujours très ludique, en fait, avec lui. Donc, j'ai le souvenir, par exemple, que toute la culture juive, ce qu'il avait de ses parents, il me l'a transmis, bon, par le biais de ma grand-mère, évidemment, vu qu'elle était vivante quand j'étais petite, mais on allait chez Goldenberg... Rue des Rosiers. Il faisait venir le violoniste qui jouait Ma Yiddish et Mamé et il se mettait à pleurer. Et donc c'était très sacralisé aussi, très mis en scène. Il faisait en sorte que ça allait me rester.
Vous vous sentiez plus proche du côté russe et juif la famille que du côté anglais quand vous étiez enfant ?
Oui, parce que c'est très injuste, mais mes grands-parents anglais, je les avais, on y allait tout le temps. Mais j'avais l'impression que j'allais toujours les avoir, alors que ma grand-mère, je l'ai perdue quand j'avais 13 ans. Du coup, j'avais un tel manque de ce côté-là.
Votre grand-mère paternelle.
Ma grand-mère paternelle. Et c'était un personnage tellement fort, voilà, que je me suis beaucoup identifiée à ce côté juif qui... Ils avaient rien de religieux. Ils étaient anti-religieux au possible. Et d'ailleurs, quand moi, j'ai eu une espèce de révélation à 13 ans un peu mystique... Ils n'ont pas du tout compris ce qui m'arrivait. J'allais toute seule à la synagogue, je ne connaissais pas les rituels. Du coup, je faisais à ma sauce. Il était assez choqué de savoir que j'avais un peu ça en tête. Et en même temps, il m'a pas demandé d'arrêter ou de... Je ne me suis pas sentie mal pour autant. Il m'a offert une étoile de David... qui me disait avoir dessiné lui-même. Enfin, c'était pas un truc honteux du tout. Mais bon, je sais pas d'où ça me sortait vraiment. Et après, c'est que quand j'ai perdu ma grand-mère maternelle, que j'ai eu une attirance pour tout le côté anglais. Donc c'est maintenant que ça me manque.
Vous disiez aussi dans des interviews qu'il avait un goût de la mélancolie aussi, qu'il y avait un vrai goût de ça chez lui.
Il n'y avait pas à se tirer de la mélancolie, il n'y avait pas à se reprendre en main, il n'y avait pas à contrer ça. Mmh. On pouvait pleurer toute la journée si on était dans ce mood. Et du coup, quand il a perdu sa mère, je l'ai vu pleurer des jours et des jours, mettre en boucle Pavane pour une infante défunte, en boucle, toute la journée. Quand il a perdu sa chienne, Nana, il était en larmes, inconsolable. Quand ma mère l'a quitté, il était en larmes, inconsolable. Ma sœur a voulu rester avec lui pour le consoler. Tellement, il montrait ses sentiments sans aucune... c'était pas sans aucune pudeur, mais c'était au contraire. C'était pas impudique, c'était pas... En fait, il n'y avait pas un côté sentimental, exagérément sentimental, parce qu'on ne se prenait pas dans les bras, on ne se cajolait pas du tout. Mais il y avait un côté dramatique dont on pouvait jouer. C'est comme quand il voulait prendre Claude Berry dans son film Stan the Flasher, et puis à la dernière minute, Claude a voulu se désister. Du coup, il est venu voir mon père et a dit « Écoute, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir faire ton film. » Et mon père a fait... Tu genre, il allait avoir une crise cardiaque. Et donc, Claude, évidemment, a cédé et a fait son film. Donc, il avait une manière de mettre en scène et de jouer.
Il y avait de la mise en scène. De l'intensité.
Voilà. Voilà.
Et de votre mère, vous diriez quoi si on parle de ses goûts, justement
Très anglais. Elle a eu à lutter contre l'esthétique de mon père dans lequel on vivait.
Oui, et dans lequel elle aussi, elle disait dans cette émission aussi qu'elle pouvait rien toucher. Et que
elle
c'était
pouvait pas
compliqué
toucher.
Pour
elle avait une chambre qui était sa chambre, mais il fallait fermer la porte. Et derrière, il y avait son bordel. Moi, j'ai un souvenir de bordel, mais d'une montagne de bonbons, de papiers, de trucs. Et parfois, elle nous faisait ranger son panier. On avait le droit de garder les pièces qu'on trouvait. Elle avait quand même Cheyne Row, qui était une maison à Londres, dans laquelle on habitait. Du coup, elle avait déjà décoré Cheyne Row, mais quand elle a acheté cette maison de campagne en Normandie, elle a tout décoré à sa sauce. Et du coup, c'était vraiment un cottage à l'anglaise. du tissu au mur, très chargé, des boiseries. Alors au début, c'était en Angleterre, c'était plutôt des meubles en pin, pas super jolis, mais et puis plus on avance dans le temps, plus ça devient acajou, et puis oui, beaucoup d'acajou, et après des antiquités surtout. Mais le goût de mon père a évolué entre le début de la rue de Verneuil et à sa mort en 91. Je pense que le goût de ma mère a évolué aussi entre Creveuil, c'est le début, enfin, mi-70, enfin, oui, les années 70, jusqu'à aujourd'hui sa maison, où c'est devenu très chargé de souvenirs.
Est-ce qu'elle vous montrait aussi plein de films, Est-ce que c'était aussi... Ça passait par la culture, beaucoup, entre vous?
Je pense que ma mère, ce qu'elle aime le plus, c'est les gens. Je crois. Ce que moi, j'ai pas su faire de mon côté. Donc, elle a pas su me le transmettre. Peut-être parce que j'étais trop timide ou trop embringuée dans ma timidité, mes complexes et tout ça. Donc, et après, son goût, c'est... Oui, je pense que mon père a un goût pour l'élégance, le côté chic, classieux. Ma mère, c'était un snobisme anglais. Donc, c'est pas forcément péjoratif, mais c'est... Il y avait des fautes de goût des deux côtés à ne pas faire.
Oui.
Donc, mon père, c'était... ce qui était vulgaire, c'était facilement identifiable. Ma mère, c'était plus dans l'excentricité. Il fallait que ce soit excentrique et quand même un peu excessif pour que ce soit intéressant. Elle exagérait tous les souvenirs. Quand moi, j'étais témoin d'un truc qui avait l'air de rien, elle en faisait tout un truc. Donc c'était beaucoup, beaucoup d'exagération.
Ils écoutaient beaucoup de musique, ensemble et séparément?
Non, ma mère, justement, en Normandie, on écoutait tout Brassens, tous les Beatles.
Elvis et...
Alors, Elvis, oui, mais c'était beaucoup... Moi, je l'ai beaucoup découvert grâce à mon père, quand même, qui a tout écouté, sans doute parce qu'il y avait des CD de... Pas forcément de best-of, mais justement de tout Elvis. Il me semble qu'il... Donc on écoutait ça du matin jusqu'au soir avec les variations Goldberg de Bach. Mais c'était des moments choisis. C'était, moi, dans ma famille, il n'y avait pas de musique de fond. On n'écoutait pas dès le matin de la musique. C'était au contraire très silencieux. Après, c'était des moments en voiture où on écoutait... voilà, elle mettait quand même pas mal Souchon. Et après, moi, je piquais aussi à ma sœur, parce que c'est ma sœur qui découvrait, qui était
demander,
en plein dans le disco.
Elle avait 4 ans de plus que vous.
Voilà. Ouais. Donc moi, c'était ses goûts à elle que je piquais.
Elle a été importante, elle, justement, aussi, dans la transmission, la formation de vos goûts.
Tout passait par elle, parce qu'en fait, on était dans une chambre commune. Elle avait 4 ans quand je suis née. Jusqu'à 13 ans, on partage la même chambre. Du coup, elle essayait de m'expulser quand elle avait des amis, de m'expulser de la nurserie si possible. Donc elle me subissait beaucoup, mais j'ai eu tous ces goûts de disco, de Blondie, mais à fond, de les Beagles, Video Killed the Radio Star, ça.
Oui, oui, oui.
Mais on n'avait pas beaucoup de disques en fait, on avait un manche disque avec... je sais pas, 10-45 tours. Donc on écoutait toujours la même chose, plus les disques gratuits que mes parents revenaient avec des disques de chez Philips, où il n'y avait même pas la rondelle. Enfin, s'il y avait la rondelle, mais il n'y avait pas la pochette. Du coup, on écoutait des conneries, hein, pour le coup. On n'avait pas le droit d'écouter certaines choses, sans vexer les artistes concernés, mais on n'avait pas le droit d'écouter Annie Cordy, pas le droit d'écouter Dorothée, pas le droit de regarder Dorothée. Mais par contre, on avait le droit d'écouter Carlos. Donc bon, je sais pas.
M. Le goût de M.
Il y a plein de trucs dans votre sac.
Il y a plein de trucs, j'ai tout sorti. Alors.
Bon,
je
que
garde...
C'est...
Alors, ça, c'est... Mais j'en ai partout, parce que comme je sais pas... Ah oui, je suis très bordélique.
Ouais.
Donc je sais pas où je range les trucs, je perds tout. Et j'ai les dents de mes enfants. Bon, maintenant, la dernière ne croit plus à la petite souris, donc je peux en parler. J'ai les dents de mes enfants. Donc celle-là, c'est Joe Tooth, December 2021. Je les ai pas toutes mises comme ça. Parfois, elles sont dans un Kleenex entouré. Enfin, voilà, j'ai les dents de mes enfants qui se baladent partout, dans des tiroirs, dans des sacs. J'ai ça qui est quand même qui fait partie de ma vie aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est?
Le sac à merde. Pour des parce que j'ai un chien aujourd'hui. J'ai voulu un chien depuis des années, des années. Ouais. Ils n'en voulaient pas et puis là j'ai gagné.
Donc, et alors du coup il faut avoir le
et il faut
le
avoir
sac
les sacs. Et donc j'en ai comme ma mère d'ailleurs. J'ai compris pourquoi. Elle en a dans toutes ses poches. Donc j'en ai dans toutes mes poches de manteau, de sac, voilà.
Ça, c'est les objets qui vous amusent un petit peu.
C'est les objets qui m'amusent.
Vous sauriez dire, quelle est la première chose qui vous a intéressée ?
Un monde secret. Un monde, un dialogue intérieur. Je me souviens très bien, en fait, toute petite, parlant à quelqu'un, ayant tout un rituel. Je le vois parce que je... En fait, les objets avaient une vie, mais je parlais à tout et j'arrivais pas à jeter les choses. Donc, c'était toute une vie qui m'animait. J'avais très peu d'amis. J'ai eu une amie, ma meilleure amie est morte à l'école. Florence. Donc ça a dû être horriblement choquant, mais j'étais en maternelle. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'amis. J'avais un amoureux, ça oui, un monde d'amoureux. Donc plutôt dévergondé sur le plan... J'étais pas du tout timide sur le plan amoureux. Pas du tout. Et plan sexuel, alors j'étais très ouverte. Oui, je sais pas pourquoi. Et très jeune. Et ma mère m'en parle comme si c'était un truc tout à fait naturel. Mais j'avais pas d'inhibition. Bon, pourquoi pas. J'ai pas eu d'amis non plus après parce que je voulais changer d'école tous les ans. Donc je suis allée en pension déjà
ça, c'est
pour
vous
m'isoler.
Qui avez demandé, ouais.
C'est moi qui ai demandé.
Ouais.
Je me suis isolée un an en pension. Ça correspond à mes premiers tournages.
Ouais, vous aviez 12 ans, c'est ça?
Ouais. Du coup, après, je fais des films l'été et l'année scolaire, je change d'école, donc j'ai pas d'amis. Après, mon monde, mes amitiés, c'était vite l'équipe de cinéma. Donc, des gens que je voyais l'été et que je retrouvais. Ou...
Quand vous commencez à tourner, donc vous avez, c'est ça, 12 ans, 13 ans, Paroles et musique, Après les frontées, bon, tous les films qu'on connaît, c'est le fait d'être dans une nouvelle famille, une nouvelle
oui,
équipe.
C'était un monde d'adultes. C'était aussi une autre famille complètement. Et ça aussi, je l'ai vu chez mes enfants, enfin surtout chez mon fils, mais de pas de rejeter sa propre famille au départ. C'est-à-dire que je n'avais pas honte d'où je venais, parce qu'en plus, tout le monde savait d'où je venais, mais j'étais très attirée par un côté beaucoup plus populaire, beaucoup plus vulgaire, justement, aux yeux de mes parents. J'allais... dans le monde de Claude Miller, dans sa famille. Ils étaient à Rosny-sous-Bois. C'était un monde que j'enviais énormément. Je sais pas, ce côté famille, peut-être plus chaleureux. Mais on est toujours mieux chez les autres que chez soi. Donc, en plus, j'avais des parents divorcés. Donc, bon, peut-être que j'échappais aussi à un truc... qui était plus compliqué chez moi. Du coup, voilà, un goût pour le côté populaire. Après, toute une culture après-guerre, parce que ça correspondait à La Petite Voleuse. Tout l'univers de La Petite Voleuse m'a tellement marqué que j'étais...
Toute l'époque même,
ouais,
quasiment.
Voilà.
Hein, vous vous sentiez bien dans cette époque-là?
Ouais. Tout le visuel, toutes les... Je sais pas, les chaussures, je voulais m'habiller avec des trucs d'époque. J'aimais les vêtements qui étaient déjà usés, donc ça me plaisait beaucoup. Mmh. C'est à la douaneau, quoi. En fait, c'est ce qui est facile pour les yeux. je trouve. Et donc, ado, on aime Doineau et on aime les deux gars, quoi. J'ai rien contre deux gars, mais c'est facile.
Et justement, vous parliez du cinéma, donc vous tournez tous les étés à cet âge-là. Quand sort votre premier film, c'est aussi le moment où c'est le même été, vous enregistrez Les Moines Incestes, vous commencez la musique et le cinéma en même temps, mais le cinéma va quand même prendre le pas pendant beaucoup d'années. C'est plus votre chose à vous, le cinéma?
En fait, le cinéma, c'est mon univers à moi. C'est un monde dans lequel mes parents viennent pas. C'est quand même vachement généreux de leur part, à 12 ans, de me laisser avoir ma vie à moi. En fait,
vous avez une vie d'adulte presque.
J'ai une vie, oui, dans un monde d'adultes. Et je suis complètement choyée parce que les enfants sur un tournage, c'est quand même une petite vie de roi. Mais ils ont compris que j'adorais ça, en fait. Que j'adorais avoir cet endroit dans lequel ils n'avaient pas à rentrer. Du coup, quand mon père m'a fait tourner, c'était là où ça ne m'a pas plu. Parce que je ne pouvais pas avoir ma vie avec l'équipe. D'un seul coup, j'étais emmerdée parce que mon père était mon père. Donc forcément, prenait la couverture à lui. C'était un personnage tellement imposant. En plus, il était sous souvent. Donc c'était une époque où j'étais gênée, en fait. J'ai toujours admiré. Je l'ai toujours... On le regardait passer à la télé. Enfin, j'aimais tout ce qui sortait, ses chansons, tout. Mais les moments de... trop sous, c'était compliqué à gérer pour moi. Parfois j'avais honte, parfois je subissais un peu. Mais en même temps, aujourd'hui, d'avoir ça comme souvenir, je le referais. Enfin, c'est un souvenir qui m'est très très cher. Mais je suis contente de comprendre aussi pourquoi ça me gênait. C'était que voilà, j'avais pas mon espace à moi.
Je lisais un truc que vous disiez sur l'enregistrement de Lemon Incest, enfin, que vous aviez fait ça enfin, en toute conscience évidemment, et en même temps, voilà, ensuite en replongeant dans la piscine. Et en même temps, ce qui m'a intéressé, c'est que vous disiez que votre père était ravi quand votre voix était un peu fausse. Enfin, cette esthétique de l'erreur, en fait, on va appeler ça comme ça.
Oui, mais ça commence là.
Ouais.
J'ai vu des étincelles, j'ai vu ce qui l'excitait et ce qu'il trouvait charmant. Je ne l'ai pas analysé sur le coup. Mais maintenant, je comprends que, évidemment, que son goût à faire chanter des actrices qui n'étaient pas des chanteuses, à préférer un grain de voix plutôt qu'une voix de...
Oui, une technique.
Et de dire surtout, prends pas de cours de chant. C'était dans les petits accidents qu'il allait trouver des choses précieuses, en fait. Et c'est des moments qui nous échappent. Donc ça, moi, je l'ai compris après, en faisant des films avec Lars von Trier, où lui m'a fait prendre conscience que d'aller dans tous les sens, de pas du tout être maître de ce qu'on faisait, et justement complètement dérouté parce que il vous fait jouer une scène en riant, après en pleurant, enfin, tous les excès possibles. Et après, moi, j'étais allée le voir en disant, mais vraiment, je comprends rien à ce que je fais, je comprends pas le rôle. Et il m'avait dit, laisse-moi faire. Je prends les petits moments. Et après, une fois montée, effectivement, j'ai compris qu'il prenait un boulin, et que le prix que j'ai eu à Cannes, c'était à lui qu'il fallait le donner. C'est lui qui a fait le rôle au final. Donc, bien sûr, on se laisse aller, et puis on donne toutes sortes d'émotions, mais c'est eux les chefs d'orchestre.
Si on parle justement de votre goût d'actrice, enfin en tout cas vous en tant qu'actrice, Lars von Trier, vous diriez que c'est la personne qui vous a le plus métamorphosé, enfin qui a été décisive?
Oui, parce que jusque-là, j'étais dans beaucoup de timidité encore sur un plateau, même si j'étais très à l'aise sur un plateau, il y avait quand même tout un cheminement et de là à me laisser aller, c'était pas... Il fallait que je lutte contre ma timidité jusqu'au dernier jour de tournage. Et j'étais toujours frustrée. Je finissais toujours une scène en me disant « Putain, j'ai pas réussi à... J'ai fait un pas, mais j'aurais voulu en faire deux ou trois. » Du coup, Lars, c'était pas qu'il me faisait faire trois pas, mais c'était qu'il me disait de me ridiculiser. Il me faisait faire ce qu'Yvan m'avait demandé de faire. Et que j'avais eu du mal à faire, c'est-à-dire monter sur une table, hurler le texte, toute la déconnade qu'il me demandait, je l'avais comprise, mais j'y arrivais pas. Et je l'avais vu lui faire, donc j'étais en admiration totale devant ce qu'il faisait, lui, Yvan. justement le côté je lâche tout, j'en ai rien à foutre, je m'amuse. J'aurais rêvé arriver à ça. J'ai pu le faire avec Lars parce qu'il m'a forcé, parce que j'ai compris que si je m'engageais avec lui, bon déjà il me faisait signer un papier où j'acceptais de me montrer nue, enfin de me montrer sous tel ou tel angle. Enfin il fallait vraiment, tout était très très établi à l'avance. Il fallait que je sois bien consciente de tout ce que j'acceptais de faire. Mais après, j'avais bien compris qu'il avait quand même des doutes sur mes capacités à l'hystérie, à... Mmh. Il fallait que je me fasse violence quand même. Et une fois que je me suis laissée aller dans les cris, dans les larmes, là, je sentais qu'il avait eu ce qu'il voulait, en fait. J'étais jamais heureuse, donc ça a été un inconfort constant sur Antichrist, mais d'une telle excitation, parce que justement, je passais en fait, en plus d'un moment où j'étais obnubilée par ma santé, parce que j'avais eu un pépin au cerveau, donc
oui,
j'étais...
Oui, j'avais eu un accident juste avant.
Oui, ouais. J'avais eu un accident, donc j'étais... obnubilée par est-ce que ça va recommencer et est-ce que je vais claquer, de ça à j'oublie complètement ce qui m'arrive et j'apprends un texte et je hurle dans les bois et je suis à poil enfin voilà, c'était, il fallait complètement passer à autre chose et ça m'a vachement aidée en fait.
Cette idée de lâcher prise, justement, vous diriez qu'aujourd'hui votre goût il va vers ça en fait, que c'est la chose, ouais, qui vous plaît le plus.
Mais en fait, si je réfléchis, ça a une logique avec mon père, avec les petits accidents sur Lemon Incest, moins sur l'album quand même que je fais avec lui, parce que je voulais trop bien faire. Je trouve que malheureusement, il m'a eu à une époque où on se regarde. J'avais, je crois, 15 ans, donc j'étais très...
Oui, c'est sorti en 86, ouais, c'est
voilà,
ça.
Voilà, donc très omnubilée par moi, au centre de tout. Du coup, j'ai pas su profiter de sa direction d'acteur derrière le micro, parce que c'était vraiment un metteur en scène. En fait, il était pas du tout aux commandes derrière le... Enfin,
sur la table de mixage,
il était au micro avec nous. Je dis avec nous parce qu'il était comme ça avec ma mère et il devait être comme ça avec les autres interprètes. Du coup, il nous guidait jusqu'au sourire. Enfin, c'était incroyable d'être guidé par lui. Mais au lieu de comprendre ce qu'il voulait et d'être beaucoup plus bancal, non, je voulais aussi bien chanter que ma mère, aussi bien parler anglais que ma mère, donc je fais un accent anglais quand je dis un mot en anglais. Enfin, moi, je me trouve très ridicule aujourd'hui, mais bon, après, ça a le charme d'une fille de 15 ans qui fait, voilà, qui fait un peu trop gaffe. Mais je comprends que ça, il y a tout un cheminement entre ce moment-là et Yvan qui me demande de lâcher aussi, j'y arrive pas. Et là, ce qu'il va me demander, je vais enfin comprendre ce que c'est qu'un accident et ce qu'on cherche. Et après, je tourne avec Patrice Chéreau, juste après Antichrist. Et moi qui rêvais de tourner avec Patrice, je m'y suis pas retrouvée du tout parce que c'était pas ça qu'il cherchait du tout. Au contraire, lui, il était dans une maîtrise de la langue et de la virgule et de ce qu'il avait écrit. Et je passais d'un type qui s'en foutait complètement de son texte et qui me disait « Mais rien à foutre, j'ai mal écrit. Vas-y, redis avec tes mots. » À quelqu'un qui, voilà, était un vrai directeur d'acteur de théâtre. Et ça me convenait pas du tout. Donc, ça m'a en tout cas aidé à comprendre ce que je cherchais, moi.
Là, en ce moment, on va vous voir à l'affiche de Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst. C'est un film qui replonge complètement dans une époque que vous avez complètement vécue aussi. Ça commence en 81, c'est entre, ouais, 81 et 88. Il y a tous ces objets, il y a tous les paquets de clopes. Enfin, ouais, je sais pas, on retrouve vraiment cette époque-là. Vous jouez Elisabeth, une mère qui a deux enfants et en fait qui est quittée par son mari, qui doit se réinventer complètement face à un film sur une quête d'autonomie. Enfin, c'est un film sur le temps aussi. Est-ce que ce personnage-là, enfin, pourquoi il vous a plu ?
J'ai été très touchée par son parcours. D'abord par Michael, par son film Amanda que j'avais vu. C'était le seul film de lui que j'avais vu avant. La rencontre que j'ai faite avec lui, c'est un personnage quand même assez énigmatique. Il est à la fois très réservé, il choisit ses mots, il est très honnête. Et j'ai vu que ce rôle qu'il avait écrit lui ressemblait quand même beaucoup. Mais ça me touchait moi aussi parce que c'était... quand même le personnage d'une timide.
Oui, elle est assez effacée au début.
Elle est très effacée. Elle a une vie nocturne. Elle essaie de préserver ses enfants. Elle y arrive. Il y a beaucoup de maladresses. Donc, je me suis retrouvée dans ses maladresses. Je me suis retrouvée dans son inconfort. Parce que ma mère, elle était très à l'aise dans les années 80. Elle avait une vie de femme hyper à l'aise, hyper épanouie.
Elle
a choisi son style, elle est dans le côté garçon. Moi, je joue un personnage qui s'est totalement mal fagoté, qui commence à mettre des pantalons, en fait. Elle commence à mettre des jeans. Mais c'est exactement les jeans qu'il ne faut pas mettre, avec les bottes qu'il ne faut pas mettre. Enfin, elle est... Elle essaye, c'est ça que je trouve vachement touchant, c'est qu'elle essaye, et en même temps, elle en fait pas non plus des caisses, c'est pas si important que ça. Je la trouve très, très fragile, très, ouais, très douce.
En ce moment, on vous voit aussi dans En Thérapie, et vous jouez le Claire Brunet, je crois,
oui.
Qui est la psy qui supervise le docteur Dayan, en fait.
Oui.
Bon, alors, elle est beaucoup plus ferme, hein, c'est déjà c'est un personnage très différent. La psychanalyse, c'est votre goût ?
Pas du tout, j'ai fait complètement semblant. J'ai dû lire un livre de Freud, c'est tout. Et j'étais face à Frédéric Pierrot et Emmanuel Finkiel, qui sont des fous férus de psychanalyse. Non, non, je la ramenais pas du tout, j'ai fait semblant. J'ai appris mon texte ou j'ai lu mon texte, c'était... totalement de composition. J'ai quand même eu affaire à la psychanalyse ou à la psychiatrie, aux médicaments, depuis que j'ai 18 ans. Donc ça, oui, oui, j'étais obligée de prendre des médicaments jeune, à 18 ans. Et puis, j'ai subi la mort de mon père, du coup... J'ai continué les médicaments et puis j'ai eu une rencontre avec un psy qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et qui m'a accompagnée jusqu'à mes 45 ans, un truc comme ça. Mais je vois quelqu'un à nouveau, quelqu'un, voilà. Et ça, j'en ai besoin. Je pense que je ne peux pas m'en passer.
Et rien à voir, mais en tant qu'actrice, justement, quand on regarde ces épisodes-là, c'est comme si c'était de la micro-réalisation. Enfin, je me dis, on est vraiment en plan très serré sur les visages. À jouer, ça, c'est quelque chose de particulier, non ? C'est très, très volubile. Enfin, il y a énormément de textes.
Ouais. Alors, j'ai pas vu, moi. Je veux pas les voir.
Ouais.
Non. Je me réserve ce droit aujourd'hui. Alors après, je trouve pas ça sympa pour le metteur en scène, c'est vrai. Mais mon plaisir, il est au tournage. J'aime pas me regarder. Mais c'était vraiment un exercice de style, je trouve. Parce que, autant, j'ai eu l'impression d'être filmée de très très près, de manière très très exagérée, avec... quand j'ai fait le film tiré d'une pièce de Marguerite Duras, Suzanne Andler, de Benoît Jacquot, où Benoît m'a filmé sous tous les angles, mais de tellement près que quand j'ai vu le film, j'étais saoulée de moi. Je me suis dit, comment on peut regarder un film où on peut me regarder aussi longtemps? Et en même temps, ça me flattait aussi. Je trouvais ça... Voilà, c'était inhabituel. Du coup, là, j'imagine que c'est un peu dans cette lignée-là. Mais oui, avec tellement de textes, on avait le choix avec Emmanuel. Il nous laissait le choix entre soit faire tout l'épisode d'une traite ou bien de le hacher en segments. Moi, souvent, je préférais quand même faire des segments. Sinon, je me perdais dans un... Je préférais quand même l'articuler. Mais il y avait un espèce de plaisir quand même à se lancer et à se dire, bon, jusqu'où on va ?
Le goût de M.
Ça, c'est pas un très bel objet, mais c'est un rapport que je m'autorise enfin à avoir avec la photo.
Alors, qu'est-ce que c'est cet objet ?
Eh ben, c'est
l'appareil. Ça sert à quoi ?
C'est l'appareil qui mesure la lumière pour faire des photos argentiques. Et comme je me suis acheté un Hasselblad, grâce à une amie qui m'a dit quoi acheter. Elle m'a d'abord embarqué vers un Polaroid, un vieux Polaroid, que j'ai encore et que j'adore, mais à l'ancienne, où on tire les images sur le côté. Et elle m'a fait acheter un Hasselblad, dont je me sers tout le temps, et j'ai un nouvel objectif. Enfin, j'adore le fait de faire peu de photos. Donc, j'ai pris ce qui m'aide à mesurer la lumière, et aussi les pellicules, parce que c'est une pellicule carrée, à format carré. Et la Trizic, c'est du noir et blanc. Et en ce moment, je fais que ça. Donc peut-être que je passerai à autre chose, mais pour le moment, ça me plaît énormément. Et j'adore le fait qu'il n'y ait que 12 poses. On n'est pas avec notre appareil photo à faire un milliard de photos. C'est choisi. Et d'ailleurs, on en revient aux accidents, parce que les accidents sont toujours bienvenus. C'est quelque chose dont on se réjouit. Et il y a cet effet surprise aussi qui est génial.
Alors Charlotte Gainsbourg, on n'est pas chez vous, on est dans un hôtel. Je crois que vous venez souvent dans cet hôtel d'ailleurs.
Oui,
vous aimez bien les hôtels, vous disiez alors, votre père vous emmenait à l'hôtel.
J'ai un goût pour
vous
l'hôtel.
Vous avez vécu à l'hôtel pas mal.
Ben, en fait, à 12 ans, donc je finis le tournage de Paroles et Musique au Canada. J'ai ma chambre d'hôtel à 12 ans.
Avec la clé.
Avec la clé. C'est quand même dingue. Peut-être qu'on me surveillait et que je ne savais pas. Mais moi, j'avais l'impression d'être toute seule. Ce qui fait que oui, j'ai eu un goût. Comme j'adorais les tournages quand ils n'étaient pas à Paris. Parce qu'on était avec une équipe, on se retrouvait pour dîner. C'était une vie de colonie de vacances, en fait, qui m'enchantait. Du coup, les hôtels, c'était génial. Après, j'ai eu un goût d'hôtel de luxe avec mon père, parce que c'était vraiment des hôtels de luxe. Donc on est passé du Ritz, où on allait très souvent, jusqu'au tournage de Charlotte Forever, où il demande au bar du Ritz si on peut utiliser les allumettes bleu marine, très belles, qui sont encore d'ailleurs, il les utilise encore, ces boîtes d'allumettes bleues. Si on peut les utiliser dans le film Charlotte Forever, il refuse. Et du coup, mon père me dit, on fait nos bagages et on se casse. Et du coup, on est parti, mais violemment. Et on est allé au Raphaël. Et c'est devenu sa deuxième maison, le Raphaël, avec des très jolies boîtes d'allumettes. Et voilà, c'était tellement beau cet hôtel. Et j'ai tellement de souvenirs d'escapades où j'ai fait le mur... La nuit, j'allais en boîte de nuit, mon père qui m'attend. C'était pas le fait qu'il dorme pas et qu'il m'attende toute la nuit, c'était que j'ai fait attendre le valet de nuit qui était le pauvre. Enfin voilà, il fallait que je me sente mal et que je m'excuse auprès du valet de nuit qui m'avait attendu. Donc j'ai plein de souvenirs d'enfants ou de jeter des bombes à eau. Du Ritz, sur le ministère, je ne sais pas quel ministère, où il s'était plaint, enfin, voilà, assez drôle.
Est-ce que les objets, c'est important pour vous? Est-ce que vous avez une relation... quel type de relation vous entretenez avec les objets?
J'adorerais être minimaliste, et je ne le suis pas. J'adorerais avoir plus pris de mon père dans le côté je sélectionne les objets, je jette ce qui ne m'intéresse plus... Je fais un tri. Alors j'essaye, mais je suis en tri perpétuel. Donc je suis entre mon père et ma mère, parce que ma mère ne fait pas de tri, donc elle garde tout. Justement, je trouve ça un peu plus pathétique, parce que c'est entre les deux, c'est le cul entre deux chaises. À la fois, je perds mon temps à faire un tri constant. Alors je donne tout, mais parce que, bien sûr, j'achète beaucoup trop de choses. Et du coup, je suis très attachée aux objets, mais en fait, je fais des boîtes de souvenirs. Mais j'y reviens jamais. Je reviens jamais sur mes souvenirs. Mais j'ai beaucoup de boîtes de souvenirs où je garde tous mes scénarios, je garde toutes mes notes de scénarios, alors que j'aurais honte de regarder ce que j'ai écrit, mais j'ai tendance à garder
quand même,
beaucoup.
Ouais. Et avec les vêtements, vous avez quelle relation?
Alors, comme on me donne beaucoup de vêtements parce que je m'habille. J'ai la chance de m'habiller chez Saint Laurent. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Donc, ce qui me fait un peu honte, c'est que je vois la rue de Verneuil aujourd'hui que je vais ouvrir au public et je vois que la garde-robe de mon père, ça correspond à deux petits placards. Et la garde-robe de bambou ou de ma mère avant, c'était deux petits placards.
C'était hyper sélectionné.
Mais il y avait la place pour 10 cintres, c'est tout, et quelques tiroirs, et c'est tout. Donc, il avait 4 chemises, 5 t-shirts, enfin, et c'était un uniforme, voilà.
Ça vous plaît ?
Donc, moi, j'ai eu très vite une idée d'uniforme, oui. Enfin, après, moi, je me l'expliquais en me disant, bon, avec les films, justement, on est tellement à s'habiller avec... pour un rôle, avec voilà, se mettre en costume. Après, on fait des photos où on met des vêtements qui sont pas les nôtres. Je prenais de plus en plus goût à la mode. Et du coup, dans ma vie de tous les jours, il fallait que ça me ressemble et que ça change pas. Et j'avais pas le temps de choisir non plus. J'aime pas perdre du temps avec ça. Et je suis pas non plus tellement à l'aise dans mon corps que... je m'amuse à avoir plein de silhouettes différentes. Non, j'ai un genre de vêtement qui me va.
Est-ce que vous sauriez définir assez rapidement comme ça ? C'est quoi qui vous plaît ?
En fait, ce que j'aime le plus, c'est de voir ma petite fille, mais aussi ma grande fille, parce qu'elle est tellement menue, habillée dans des vêtements trop grands. J'ai toujours trouvé ça charmant.
Et le trop
donc
grand.
C'est un peu Gavroche, ouais. Oui, ouais. C'est un peu le côté... on met des vestes d'hommes.
Votre mère fait ça aussi, mais
ma mère
grand.
A fait ça avant tout, enfin avant
oui,
tout le monde,
très tôt,
je
ouais.
trouve. Après, c'est vrai que j'en ai eu marre en fait des jeans qui vous collent, parce que j'ai des jambes. Je vais pas me plaindre de mes jambes, mais j'ai des mollets de footballeuse. Donc j'ai pas du tout des bonnes proportions de pantalons, ce qui fait que tous les pantalons de mode ne me vont pas parce que j'ai pas de hanches et j'ai pas de taille non plus, donc j'ai comme une silhouette de garçon mais avec des mollets
un peu androgyne quoi,
très androgyne, sauf que les mecs ont pas de mollets et du coup c'est pas très facile de... En tout cas j'aime beaucoup aujourd'hui mettre des pantalons qui sont amples, sauf que j'aime bien les fesses et je trouve ça dommage parfois parce que c'est un peu triste au niveau des fesses. Voilà.
C'est précis. Quel type de goût vous plaise, d'une manière sensible ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
J'aime pas trop les couleurs. C'est pas quelque chose... Et même, je commence à faire un petit peu de photos. J'aime beaucoup, d'ailleurs. C'est quand même plus facile, le noir et blanc. Je m'y retrouve. Je trouve que ça efface tellement d'erreurs. C'est beaucoup plus simple. Alors, je dis pas, j'aimerais pas vivre ma vie en noir et blanc du tout, mais je trouve ça plus facile de faire de faute de goût avec le noir et blanc.
Vous êtes sensible, vous, à l'idée de faute de goût ? Vous avez peur de faire des fautes de goût ?
Oui, mais après, je trouve ça bien de faire des fautes de goût. Après, c'est le comble du snobisme, hein, c'est de faire des fautes de goût et de les faire de manière étudiée. Et c'est tout ce qu'on fait dans la mode et voilà ce qu'on... Voilà. Ça m'intéresse pas non plus assez. La mode ne m'intéresse pas assez. C'est pour ça que je m'habille toujours de la même manière aussi, que je vais à la facilité. Je regarde pas autour de moi plus que ça. Je déteste faire du shopping. Ça m'ennuie. Donc il faut pas non plus que ça me prenne trop de temps. Les fautes de goût, tout ça, c'est bon. Et aussi, je suis avec des personnes qui font les choses mieux que moi. Donc, Yvan a tendance à avoir meilleur goût en ce qui concerne la photo. Donc, c'est lui qui m'a quand même appris beaucoup de choses, beaucoup de, justement, d'artistes en photo. Du coup, je me fie beaucoup à lui. Je suis. Et dans les meubles aussi, en fait. Moi, on a fait appel à une décoratrice qu'on aimait énormément, Florence Lopez. Après, Yvan, il s'est fait son goût. C'est lui qui me guide
qui
un peu.
Guide.
Et je dois dire que ça me fait chier, en fait, un peu. Donc, j'adore quand c'est beau, mais ça m'ennuie, vraiment.
Tout l'effort pour y arriver, vous voulez dire ?
Oui, l'effort pour y arriver m'ennuie. J'aime pas aller aux puces, j'aime pas... Ouais. Tout me fait chier.
Donc, vous diriez, justement, c'est une des questions, vous diriez que vous... Enfin, là, vous parliez d'Yvan, mais vos amis ont du goût, d'une manière générale ou c'est
mes
pas forcément
amis.
Un critère ?
Non.
Non. C'est pas là-dessus que ça se base.
Pas du tout. Après, je le remarque, si. Je suis hyper snob. Hein.
Ouais.
Mais j'ai la culture du snob, parce que je viens de là, mais j'en fais pas un critère.
Vous essayez de passer au-dessus de votre snobisme.
Je juge et j'oublie. Voilà.
Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût ? C'est possible pour vous ou pas ?
Je suis très peu tombée amoureuse. Vous parlez d'hommes, hein ?
Ah, de enfin, d'hommes ou de femmes,
mais d'amoureux.
Oui, de personnes.
De personnes. Mmh. Ça avait aucune importance.
Ça n'a aucune importance.
Sauf que je trouve que Yvan avait un chic, mais quand. Enfin, un chic, c'était. C'était grunge avant l'heure. Parce qu'il était dans une Austin rouge, pourrie. Il écrasait ses mégots à même le sol. Et il avait un pull en maille rouge, sans rien en dessous. Et il avait les cheveux un peu longs et il se lavait pas trop à cette époque-là. Et bon, ça devait évidemment qu'il y a quelque chose qui me rappelle mon père là-dedans. Qui bon, forcément, j'aimerais bien parler de quelqu'un d'autre, hein, mais bon, forcément, c'était un peu mes critères. Donc c'était quand même le charme absolu pour moi. Mais je pense que je suis une personne dont j'étais très amoureuse avant. Avait aucun goût.
Ouais, donc c'est possible pour vous, en fait.
Complètement.
Voilà. Ouais. Alors du coup, ça serait quoi pour vous, à votre sens à vous, avoir du goût ?
Mais pour moi, le goût, il est dans les sentiments. Le goût, il est dans son mode d'expression, dans sa personne, pas du tout dans le côté physique ou d'un vêtement ou d'une. Ou d'une physionomie, c'est dans l'attitude plus qu'on a du goût. C'est dans la. Oui, c'est vraiment dans l'attitude.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin, et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir Le Monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.